Alors, un bon matin à vous tous et chacun. Et surtout, ce jour de l'amour, comme on l'appelle le Saint-Valentin. Alors, une très bonne et heureuse journée à vous. Et pour nuestros amigos hispanos, feliz día de San Valentín. Gracias. Alors ce matin, je vous demande à prendre vos Bibles, s'il vous plaît, et tournez à l'évangile de Jean. Jean chapitre 15 au verset 9. Jean chapitre 15 au verset 9. Et avant de lire ce texte, il est important de le mettre dans son contexte. Ce texte fait partie de ce que nous appelons le discours dans la chambre haute, qui commence au chapitre 13 et termine au chapitre 17. Et c'est le dernier discours de Jésus à ses disciples peu de temps avant sa crucifixion. Un discours pendant lequel il ouvre son cœur et en leur parlant des choses du royaume de Dieu. Il y a un thème qui revient souvent dans ce discours, un thème par lequel Jésus est préoccupé. Il va le mentionner 30 fois dans 5 chapitres. Et vous avez deviné, c'est quoi? C'est le thème de l'amour. Et vous savez, notre monde aussi est préoccupé par le thème de l'amour. Comme vous le savez tous, nous avons des chansons d'amour qui surpassent toute autre catégorie de chansons. Nous avons des contes de fées d'amour. Quelques exemples, La Belle et la Bête, ou bien La Princesse et la Grenouille. Nous avons des œuvres littéraires d'amour, Roméo et Juliette. Il y avait un temps aussi où Hollywood nous inondait avec des films d'amour. Et bien sûr, nous avons une fête d'amour, la Saint-Valentin, une occasion spéciale pour démontrer notre amour les uns envers les autres. Tout comme cette femme qui, après s'être réveillée, a dit à son mari, « Je viens de rêver que tu m'as donné un collier de perles pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu penses que cela veut dire? » « Oh, tu vas savoir ce soir, » le mari a répondu. Le soir venu, le mari arrive à la maison avec un petit paquet et il le donne à sa femme. Tout excité, elle ouvre et trouve un petit livre intitulé « La signification des rêves ». Mais malgré toutes ces expressions d'amour véhiculées par l'Internet, la radio, la télévision, le cinéma, les livres, etc., notre monde en 2016 demeure à certains endroits, plus que d'autres, un monde dangereux, caractérisé en général par la violence, la haine, les abus, les meutes, les querelles, les relations brisées et j'en passe. Alors, pour reprendre les paroles d'une chanson d'amour, « What the world needs now is love, sweet love ». En français, ce dont le monde a besoin, c'est l'amour, le doux amour. Et pas n'importe quel amour, un amour tout à fait différent de celui duquel le monde chante, un amour qui va combler des vrais besoins. Alors la question se pose, où trouve-t-on un tel type d'amour? Comment faire à l'égard de cet amour pour toujours faire partie de la solution et non de la problématique? Comment quelqu'un, un homme, une femme ou un enfant, pourrait être caractérisé de l'amour digne d'être partagé? Et nous qui sommes ici ce matin, vous et moi, sommes-nous caractérisés par un tel type d'amour? Alors Jésus va répondre à toutes ces questions dans notre texte que nous avons devant nous ce matin, que nous allons lire. Alors Jean chapitre 15, verset 9, et je lis ceci, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Verset 12. Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, c'est notre texte pour ce matin, dont le thème principal est un amour digne d'être partagé, doit avoir l'amour de Dieu comme son fondement. Et ce matin, nous allons considérer trois aspects de cela. Alors, si vous et moi, nous voulons avoir un amour qui est digne d'être partagé, il faut tout d'abord commencer par recevoir l'amour de Dieu. Recevoir l'amour de Dieu. Si vous regardez votre texte encore au verset 9, Jésus va dire à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Avez-vous remarqué? Jésus partage son amour avec ses disciples. « Je vous ai aimé, il leur dit. » Mais il prend la peine de souligner que l'amour qu'il recevait de lui avait son fondement, sa source dans l'amour du Père. Bref, il leur disait, cette qualité d'amour que vous recevez de moi, c'est égal en qualité de l'amour que moi-même j'ai reçu du Père. Et vous savez sans doute que ce type d'amour venant du Père dont Jésus parle n'a rien en commun avec l'amour superficiel ou conditionnel ou sentimental. Dans le texte original, c'est traduit par le mot agapé. Et ça représente la plus haute forme d'amour connue de l'homme. Et je vais vous donner quelques aspects de cet amour. Tout d'abord, sa définition. Ça, c'est le petit Larousse qui nous dit ceci. Un mouvement de dévotion, de dévouement qui porte vers une divinité, un idéal ou une personne. On peut parler de l'amour de Dieu. On peut parler de l'amour de la vérité. On peut parler de l'amour du prochain. Alors, il y a une définition, mais il y a aussi une déclaration. Et dans la parole de Dieu, nous avons à maintes et maintes reprises, on va parler de cet amour qui émane de Dieu et qui même forme l'essence de Dieu-même. Le texte nous dit ici que Dieu, dans son essence, il est amour. Dieu aussi, comme nous avons vu ce matin, il est riche en miséricorde. Pourquoi? À cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous avons aussi, en Éphésiens 5 et 25, nous disons ceci, Christ a aimé l'Église. Quel beau texte. Et peut-être le verset le mieux connu de tous, Jean 3:16, car Dieu a tant aimer le monde. Dieu est amour dans son essence. Dieu est amour dans ses agissements. Et en citant ce verset, je ne peux que m'empêcher de penser à ce petit chant, chanté souvent à l'école du dimanche, et qui a été traduit dans le plus grand nombre de langues, plus que tout autre chant. C'est le petit chant, Jésus m'aime. Oui, ah oui, car la Bible me le dit. Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Christo me ama. Bien lo sé, sous palabre, mais assez vain. Mais Dieu n'a pas simplement déclaré qu'il est amour, qu'il nous aime. Comme nous avons entendu, notre frère Denis nous a dit la semaine dernière, les bottines ont suivi les bottines. Les babines plutôt, pas les bottines, excuse. Les bottines ont suivi les babines. Alors, nous avons une définition de l'amour, nous avons une déclaration, mais aussi il y a une démonstration. Et Romains 5:8 nous dit ceci, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions pas aimables, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ mort à la croix est une démonstration de l'amour de Dieu. Et j'aimerais qu'on prenne juste quelques instants pour examiner ce que le texte dit et pourquoi c'est une démonstration de l'amour de Dieu. Et c'est parce que, qu'est-ce qui se passe à la croix? À cause du fait qu'à la croix, l'humanité est coupable du plus grand crime jamais commis, la crucifixion du bien-aimé Fils du Père. Les hommes ont crucifié le Fils bien-aimé du Père. Et pourquoi? La motivation devant ce geste, ce crime, c'est la haine. La haine à l'égard de Dieu, la haine à l'égard de sa parole qui condamnait leur péché, et la haine envers celui qui était et qui est la parole incarnée, qui est Jésus-Christ. Et poussé par l'écart, enflammé par la haine, les hommes ont rejeté le Fils de Dieu. Et vous savez, ils ont crié, crucifie-le, crucifie-le. Les hommes ont craché sur lui. En moquerie, ils l'ont couronné d'épines, ils l'ont frappé. Ils l'ont arraché sa barbe et finalement, ils l'ont cloué sur une croix afin qu'il subisse une mort honteuse, lente et agonisante. Et ça, c'est le crime odieux des hommes, perpétué à l'égard de celui qui était complètement innocent, à l'égard de celui qui s'était dépensé corps et âme pour le faire du bien pendant son ministère de miracles et de guérison. Ça, c'est l'humanité à son pire. Et en passant, s'il y avait un moment dans l'histoire de l'humanité où ce que la foudre divine aurait dû tomber du ciel et faire du barbecue des hommes, c'était en ce moment-là. Mais, à la croix, nous voyons l'homme à son pire. Et si nous pouvons ainsi parler, nous voyons Dieu à son meilleur. Qu'est-ce que je veux dire par ceci? Dieu est parfait dans toutes ses œuvres. Mais à la croix, nous avons une démonstration de la plus grande œuvre de Dieu, même qui dépasse l'œuvre de la création, qui est grande et majestueuse. Les hommes motivés par la haine ont crucifié le Christ. Dieu, motivé par un sentiment encore plus grand que la haine, l'amour, ont pardonné les pécheurs. Et le crucifié, par amour, pardonne à ses bourreaux. Jésus va prier, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Par amour, le crucifié, l'innocent, prend la place des coupables, se charge de leurs péchés. Il subit la colère d'un Dieu saint et juste contre le péché, et lui, il meurt le juste pour les injustes. Et ça, c'est une qualité, ça, c'est une démonstration d'amour de la part d'un Dieu d'amour. C'est un amour de qualité, l'amour avec lequel Dieu nous a aimés. Et combien cet amour, tel un vrai trésor, devrait être précieux à nos yeux. Combien nous devrions nous sentir privilégiés, nous qui sommes sauvés d'avoir reçu cet amour. Combien nous devrions nous rendre compte que nous possédons ce que le monde cherche désespérément. Et combien nous devrions être prêts à le partager. J'espère que c'est notre désir à tous ce matin, justement de faire connaître cet amour que nous avons reçu, un amour digne d'être partagé. Alors, deuxièmement, si nous voulons être caractérisés, oui, comme j'ai dit, par un amour qui est digne d'être partagé, il faut tout d'abord recevoir l'amour de Dieu, mais deuxièmement, il faut aussi rester dans l'amour de Dieu, rester dans l'amour de Dieu. Jésus a dit dans Jean 15, 9b que nous avons lu, « Comme le Père m'a aimé, oui, je vous ai aimé, mais, très important, demeurez dans mon amour. » Demeurez dans mon amour. Et ça, c'est une autre clé pour avoir un amour digne d'être partagé, c'est de rester dans l'amour de Dieu. Comme des bons étudiants, nous devrions être en train de nous poser la question, comment faire pour demeurer dans l'amour de Dieu, pour rester dans l'amour de Dieu. Jésus l'a souligné dans ce texte deux fois. Et je crois que Jésus anticipe justement cette question, et comme un bon enseignant, il donne la réponse dans le verset qui suit. Que faire pour demeurer dans l'amour de Dieu? Jésus va dire ceci. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Réponse très claire, très simple à cette question. Restez dans mon amour, et la manière de le faire, c'est de garder mes commandements. Alors, pour rester dans l'amour de Dieu, il faut garder ses commandements. Est-ce que j'entends ce matin des gémissements quand on parle de garder les commandements de Dieu? Lesquels? Dois-je me faire une liste comme des pharisiens et en cocher à chaque jour pour voir si vraiment je suis en train de garder les commandements de Dieu? Et de plus, ça sent un peu la loi, n'est-ce pas? Vous avez une liste, on coche, hop, je garde les commandements de Dieu. Mais avant d'être découragé, j'aimerais vous suggérer une approche tout simple qui va donner le même résultat si vous et moi, nous le mettions en pratique. Et qu'est-ce que c'est? C'est de commencer par garder, en gardant un seul commandement. Le premier est le plus important et tous les autres vont s'accomplir. Et quel commandement? On va le trouver dans l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. Tellement important que c'est mentionné trois fois dans les évangiles. Jésus va le qualifier comme le premier et le plus grand de tous les commandements. Il va dire ceci dans Matthieu 22, 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et Marc va ajouter, « Luc, de toute ta force. » Et ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé pour garder les commandements de Dieu et rester alors dans l'amour de Dieu. C'est aimer Dieu. C'est commencer là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et montrez-moi un homme. Montrez-moi une femme qui aime Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée, de toute leur force. Et je vous montrerai un homme et une femme qui obéit à Dieu, qui est soumis à Dieu, qui fait sa volonté et qui garde ses commandements. Ça, c'est la clé, justement, de garder les commandements de Dieu. Et Jésus l'a dit si bien dans Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder mes commandements. » Pas de doute là-dessus. L'amour de Dieu conduit inévitablement à l'observation de sa parole, à l'observation de ses commandements. Et trop souvent, la problématique, c'est que nous focalisons sur les commandements au lieu de focaliser sur Dieu. Et la vie chrétienne devient alors une corvée qui est dénudée de toute joie. Et ce n'est pas pour rien que Jésus, je n'ai pas lu de verset 11, mais Jésus a dit à ses disciples, en parlant de ce texte-là, il va dire, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Dieu n'a jamais voulu que l'observation de ses commandements soit pour nous une corvée, une chose qui va justement nous rendre tristes. Et comme je dis, la clé est là. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, notre force, notre pensée. Et nous allons, si nous l'aimons, garder ses commandements et notre joie va être parfaite. Alors, ça nous amène maintenant à poser une autre question d'une importance capitale. Comment faire pour aimer Dieu dans le pratico-pratique? C'est la belle théorie, mais comment faire dans le pratico-pratique pour aimer Dieu? J'aimerais vous donner trois façons de le faire. Très pratique. dans un premier temps, aimer sa personne. Aimer sa personne. Et si vous voulez avoir des idées de l'amour, lisez le livre des Cantiques des Cantiques. C'est un livre romantique entre un époux qui est Salomon et une épouse, la Sulamite. Et en passant, il y a plusieurs commentateurs qui voient le parallèle entre Christ et son Église. Et tout au long de ce livre, l'épouse va appeler l'époux « mon bien-aimé ». Sent en amour. Il y a des étoiles dans les yeux et elle appelle son bien-aimé. Et au chapitre 5, au verset 16, elle va s'exclamer ainsi, « toute sa personne est pleine de charme ». Wow! Je me demande si vous dites cela de temps à autre à votre conjoint, conjointe. Ça, c'est une grande expression d'amour d'une épouse envers son époux. Et vous savez, ce matin, ça devrait être la même chose pour nous envers l'Église, qui est l'épouse de Christ, envers notre divin époux. Jésus est notre bien-aimé. Nous le disons souvent, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Il est notre bien-aimé. Mais est-ce que pour nous, toute sa personne est pleine de charme? Vous savez, il y a une chose de chanter Jésus même. Jesus loves me. Christo me ama. Mais c'est toute autre chose de chanter j'aime Jésus. I love Jesus. Yo amo a Jésus. A Jesus plutôt. C'est toute autre chose de dire j'aime Jésus parce que pour moi, sa personne est aimable. Et pourquoi sa personne est aimable? Parce que je sais qu'il m'aime, et pas n'importe comment. Je sais qu'il m'aime d'un amour qui est grand. Je sais qu'il m'aime d'un amour qui est fort. Je sais qu'il aime, il m'aime d'un amour qui est indescriptible, inconditionnel, altruiste, patient, éternel. J'aime l'amour de Jésus. Et j'aime aussi le Jésus d'amour. Et j'espère que c'est ce qui nous caractérise ce matin. Nous aimons Dieu à cause de son amour qu'il a pour nous. Nous aimons son amour. Un amour qui est, qu'on ne pouvons même pas décrire. Vous savez, c'est facile sur le plan humain. OK? D'aimer ceux qui nous aiment. Ils sont aimables, on dit. Parce qu'on ressent qu'ils nous aiment. Avec nos ennemis, c'est sûr qu'on a un peu plus de misère. Là. Combien plus ça devrait être facile pour nous d'aimer celui qui nous aime si parfaitement. L'apôtre Jean a dit ceci, et ça c'est un autre verset clé. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Montrez-moi un homme, une femme qui est en train justement de vivre pleinement l'amour de Christ pour son âme, qui est en train de l'expérimenter vraiment, qui prend le temps justement de méditer jusqu'à quel point Christ qui nous aime. Et je vais vous montrer un homme, une femme dont le cœur va répondre par amour vers l'amour de Jésus et le Jésus d'amour. Et j'écris ceci. Le plus que nous aimons son amour, plus que nous aimerons sa personne. Plus que nous aimons sa personne, plus que nous garderons ses commandements. Plus que nous gardons ses commandements, plus que nous resterons dans son amour. Et plus que nous restons dans son amour, plus que nous allons cultiver un amour qui est digne d'être partagé. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres raisons pour aimer notre Dieu. On peut l'aimer à cause de sa sainteté, sa bonté, sa grâce, sa miséricorde, ses compassions, sa fidélité, j'en passe. Mais je n'ai pas l'intention justement ce matin de toucher à ces sujets. On va avoir l'éternité justement pour découvrir toutes ces facettes-là. Je voulais juste focaliser sur un aspect de Dieu, l'amour de Dieu qu'il a pour nous Et quand on goûte jusqu'à quel point Dieu nous aime, combien ça nous répondons aussi par cet amour envers lui. Alors, aimer Dieu pour rester dans son amour, mais aussi aimer sa parole. Aimer sa parole. Parce qu'un amour pour Dieu va conduire toujours vers un amour pour sa parole. Le psalmiste va dire ceci dans Psaume 119, 47, « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. » Et encore, il va dire ceci, « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Et pourquoi est-ce que nous devrions aussi avoir un amour pour la parole de Dieu? Mais c'est parce que quand on va commencer justement dans cette relation d'amour avec le Seigneur, quand nous commençons à goûter, à expérimenter l'amour de Dieu, nos cœurs vont répondre. Ça va créer en nous un désir d'en connaître davantage. Et je pense ici au psalmiste qui a dit ceci, « Mon âme a soif de Dieu. » Qu'est-ce qu'il disait en ce moment-là? J'aimerais vous suggérer que le psalmiste disait dans son cœur, « J'ai soif de connaître de plus en plus l'amour de Dieu pour moi. » Et où est-ce que nous allons aller, où se tourner pour être abreuvés et pour étancher notre soif de l'amour de Dieu pour nous? Le seul endroit, ce n'est pas devant la télévision, ce n'est pas sur Facebook. La seule place qu'on va trouver et on va vraiment se délecter de l'amour de Dieu pour nous, c'est dans sa parole. Et c'est pourquoi nous devrions l'aimer. Ça va raviver notre amour pour nous. Ça va alimenter notre amour pour nous. C'est, comme quelqu'un a dit, la Bible, c'est une lettre d'amour venant d'un Dieu d'amour. Et ça, c'est ce que la Bible peut faire. Mais il y a aussi d'autres choses que... Ça, c'est à l'égard de Dieu, mais il y a aussi des autres choses que la Bible peut faire pour nous. Et pour ces autres raisons aussi, nous devrions l'aimer. Elle nous permet d'avoir une bonne conduite. Psaume 119, 9 dit ceci, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? » Et quand nous dirigeons d'après la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais nous récoltons les bénédictions de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu. Elle nous permet, en le mettant en pratique, justement, d'avoir les bénédictions de Dieu. Josué 1, 8, Dieu va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et les croyants qui ont une bonne conduite, l'Église en a besoin, le monde en a besoin, notre communauté en a besoin. Aimer la parole de Dieu aussi parce que elle nous donne une bonne consolation. Nous vivons dans un monde déchu. La souffrance, le péché, la déception, la maladie, nommez-en, ça fait partie de notre lot à cause justement de la chute dans le jardin d'Éden. Et tôt ou tard, on va y goûter. Il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir des journées sombres, il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des épreuves. Mais où aller? Où se tourner justement pour trouver une consolation? La parole de Dieu. Le psalmiste va dire ceci dans Psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et dans Psaume 119, 50, sans doute, le psalmiste expérimentait des choses difficiles. Il va dire ceci, c'est ma consolation dans ma misère. Tes promesses me rendent la vie. Alors, quelle grâce pour nous d'avoir la parole de Dieu qui nous permet, au lieu de mieux mûrir à cause des circonstances difficiles, d'être capable d'être consolé par la parole, de rendre grâce à Dieu en toutes choses, de glorifier son nom, et d'être une source d'encouragement pour des frères et des sœurs qui passent aussi par les moments difficile. Et troisièmement, nous devrions aimer la parole de Dieu parce qu'elle forme en nous un bon caractère. 2 Timothée 3,16 va dire ceci, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu et aussi la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La parole de Dieu a la capacité de former notre caractère et de faire de nous les hommes et les femmes de Dieu que Dieu veut que nous soyons. Et les œuvres que la parole de Dieu va faire en nous nous permettent à ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ et de retrouver en quelques mesures, pas parfaitement, mais de retrouver l'image de Dieu que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Et combien de fois nous sommes déçus de nos propres agissements. On voit comment le péché nous surprend, comment est-ce que des fois nos cœurs sont tortués et nous soupirons. Au jour où l'apôtre Paul va dire dans Romains, on va être justement délivré et de vraiment retrouver justement l'image de Dieu que nous avons perdu, comme je dis, en Éden. Alors tout ça, c'est la parole de Dieu qui va faire cela, et ça, c'est une bonne raison pour l'aimer. Et une troisième chose aussi, aimer la parole de Dieu parce que... une troisième chose, nous démontrons que nous aimons Dieu, sa personne, on aime sa parole, mais aussi nous aimons Dieu quand nous aimons sa présence. Et ça ne devrait pas être surprenant. Montrez-moi 2 personnes qui s'aiment, là. Surtout les jeunes, quand ils commencent à se fréquenter, c'est presque impossible de les séparer. Hein? Ils peuvent passer des heures au téléphone. En tout cas, l'amour, là, ça fait des choses extraordinaires. Alors, ça ne devrait pas nous surprendre non plus que l'amour focalise sur la personne ou l'objet qui est aimé. Et qui est mieux placé pour illustrer cela que notre Dieu? Et je vous donne quelques textes ici dans Genèse chapitre 3. On voit que Dieu se promener dans le jardin vers le soir. Et les commentateurs nous disent que c'était son habitude. Il avait créé un homme à son image. Il voulait avoir cette communion intime avec l'homme qu'il aimait. Alors, il recherchait sa présence. Exode 25, Dieu va délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. C'est un peuple qu'il aime. Il va leur dire qu'il me fasse une sanctuaire. Mais pourquoi? Parce que je veux habiter au milieu d'eux. Dans Matthieu 18, le Seigneur va dire ceci, où est-ce qu'il y a 2 ou 3 réunis en mon nom. Je sais que c'est un contexte justement de discipline, mais Jésus va dire, je suis là au milieu de vous. Matthieu 28, il va dire ceci, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous avons un beau texte dans Apocalypse, on est dans l'état éternel. Et Dieu va dire ceci, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. La présence, Dieu recherche la présence de son peuple pour toute l'éternité. Et quand nous aimons Dieu, alors Dieu nous donne l'exemple, nous devrions aimer aussi sa présence. Le psalmiste va dire ceci, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite, ou encore mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je vais vous laisser avec 3 applications pratiques qui découlent justement de cela, quand on aime sa personne, quand on aime sa parole, puis quand on aime sa présence. Quand nous aimons la personne de Dieu, cela va nous transformer en des adorateurs. Vous ne pouvez pas aimer Dieu sans l'adorer. Et la vraie adoration découle d'un cœur rempli d'amour. Et des vrais adorateurs, Dieu les cherche encore. Et laissez-moi vous dire que si, justement, vous commencez cette voyage, si je peux l'amener ainsi de suite, si vous commencez justement à rentrer dans ce but d'aimer Dieu, en aimant sa personne, le dimanche matin, la célébration du culte ne sera plus jamais la même pour vous. Le plafond ici, là, on va le faire sauter. Deuxièmement, aimer, la parole de Dieu va vous transformer dans un chrétien caractérisé par la méditation. Aimer la parole de Dieu, en faire un délice, on l'acquiert seulement par la méditation. Et ça va vous transformer, vous et moi, dans des chrétiens fructueux, selon Somme 1, et on va porter des fruits pour la gloire de Dieu. Et vous pouvez dire une chose, lire votre parole ne sera plus jamais la même pour vous. Et troisièmement, aimer sa présence va, vous et moi, nous transformer dans les intercesseurs. Nous ne pouvons pas être connectés dans la présence de Dieu sans ressentir son fardeau pour les âmes perdues. Et je pense à Abraham qui s'est tenu dans la présence de Dieu quand les anges sont venus. Des paroles de Dieu, Abraham se tient encore dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Il va intercéder pour la ville méchante de Sodome et de Gomorre. Et ça, dans la présence de Dieu, Dieu va nous transformer. Et vous ne serez plus le même. Et faire l'évangélisation ne sera plus le même pour vous. Et troisièmement, je termine avec ceci. Alors, pour avoir un amour digne d'être partagé, recevoir l'amour de Dieu, rester dans l'amour de Dieu, mais il y a aussi un autre élément, recycler l'amour de Dieu. Payez au suivant, s'il vous plaît. Jésus, lui, avait reçu l'amour du Père. Il aurait dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. J'ai recyclé l'amour que j'ai reçu du Père. Et maintenant, il le donne ce commandement de l'imiter. Il va dire ceci à 5 reprises dans ce texte. De Jean 13 à 17, à 5 fois, il va le dire, « Aimez-vous les uns les autres. » Recyclez justement mon amour envers les autres. Dans l'Ancien Testament, c'était « Aime ton prochain comme toi-même. » Dans le Nouveau Testament ici, qu'est-ce que c'est? « Aimons-nous les uns les autres, mais pas n'importe comment. » C'est comme Jésus nous a aimés. Et ça, c'est un amour qui est digne d'être partagé. Quand vous aimez la personne de la même qualité dont vous avez été aimé par Jésus. Alors, comment Jésus nous a-t-il aimés? Vous laissez avec deux aspects pratiques. Tout d'abord, avec un amour serviable. Il a dit ceci, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Ça, c'est un modèle d'un amour digne d'être partagé, un amour serviable, et c'est une contrepoison, un antidote pour l'amour humain. Vous savez qu'est-ce qu'un amour humain fait? On va servir notre nombril, le moi. L'amour de Dieu, de Jésus-Christ, en sert les autres. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, aimant le plaisir plus que Dieu. Ça, c'est le monde, caractérisé par le culte du moi. Mais le chrétien devrait être caractérisé par un amour serviable. Et dans Jean chapitre 13, de façon pratique, Jésus va servir ses disciples. Il va mettre le comble de son amour pour eux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va laver les pieds de ses disciples. Ça, c'est une tâche qui était réservée à un esclave, et pas n'importe quel esclave. C'est lui qui était en bas, le plus bas. Et Jésus va faire ceci. Et Galates va nous dire ceci, « Rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » Parole de vie va dire ceci, « Mettez-vous au service les uns les autres par amour. » Servez les autres par amour, parce que Jésus, par amour, il nous a servis. Et juste brièvement, l'amour serviable est alerte aux occasions pour servir. L'amour serviable, si tu veux vraiment servir, tu vas trouver les occasions. Le président Kennedy, John F. Kennedy, a dit ceci dans un discours: « Mes compatriotes, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Il y a plusieurs applications ici. Un mari vers une épouse, l'épouse vers son mari, des enfants. Ça devient « Ne demandons pas ce qu'eux, ils peuvent faire pour moi, mais demandons plutôt ce que nous pouvons faire pour eux. » Et dans le contexte de l'Église, ne demandez pas ce que votre Église peut faire pour vous, mais demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour votre Église. Et sans oublier aussi, comme nous avons entendu la semaine dernière, notre communauté, qu'est-ce que nous pouvons aussi faire pour notre communauté. Alors ça, c'est l'amour serviable. Et juste dire quelque chose, il n'agit pas par contrainte, mais par humilité. Et l'amour serviable ne considère pas la bassesse du service à accomplir. Et dans le temps de Jésus, c'est laver les pieds des disciples. Ça pourrait dire même laver les planchers de l'église, même aussi laver les toilettes. L'amour serviable ne considère pas la bassesse du service à accomplir. Et deuxièmement, un autre aspect de l'amour serviable, c'était aussi un amour sacrificiel. Parce que Jésus va dire dans Jean 15, 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et la Bible est remplie d'exemples de cela. Dieu nous a aimés. Et qu'est-ce qu'il a fait le sacrifice? Là, il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça, c'est Jean 1, Jean 4, 10. C'est le même amour que Christ a eu pour l'Église. Christ nous a aimés et il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme un sacrifice. C'est l'amour que Paul ressentait quand il a dit « Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et juste une comparaison entre l'amour serviable et l'amour sacrificiel, les deux ressemblent. Tous les deux sont alertes aux occasions qui se présentent pour agir. Tous les deux n'agissent pas par contrainte. Tous les deux sont imprégnés d'humilité. Et tandis que l'amour serviable ne considère pas la bassesse du service à accomplir, l'amour sacrificiel ne considère pas la grandeur du sacrifice à accomplir. Jésus nous a laissé avec l'exemple suprême, il a donné sa vie. Je ne suis pas en train de dire que Dieu va vous demander d'aller jusqu'à là, mais il peut y avoir des occasions où est-ce qu'il faut faire des sacrifices, sacrifices du temps, sacrifices de notre argent, sacrifices de nos énergies, etc., etc. Et si vous êtes caractérisé par ce type d'amour, vous allez trouver justement les occasions pour servir. Deux choses. Une implication de ce texte. Nous avons, si vous êtes sauvés ce matin, vous avez reçu l'amour de Dieu. Ça, ce n'est pas la problématique. La problématique pour vous et pour moi, c'est notre plus grand combat, c'est de rester dans l'amour de Dieu. C'est ça, la problématique. Et comme je vous ai montré ce matin, ça commence quand nous nous accrochons à l'amour que Dieu a eu pour nous. C'est ça qui va nous raviver. Si notre amour ce matin est refroidi, c'est ça qui va nous raviver pour un amour, pour rester dans l'amour de Dieu. Et c'est tellement important que l'apôtre Paul, quand il a prié pour les chrétiens à l'église d'Éphèse, il a demandé à Dieu que ces chrétiens-là connaissent l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Parce que alimenté, imprégné de cet amour, ça fait un chrétien extraordinaire, attaché à son Dieu et rempli d'un amour digne d'être partagé. Et si vous n'avez pas encore reçu Christ comme votre sauveur, mais vous avez un plus grand choix de votre vie, c'est de recevoir l'amour de Christ. Ça, c'est le plus grand choix. Vous pouvez choisir dans ce monde, vous pouvez faire des erreurs. Si vous choisissez votre carrière et ce n'est pas ça qui était pour vous, il y a des conséquences. Mais ça des conséquences éternelles quand on se trompe en ce qui concerne l'amour de Dieu. Et ce matin, si vous êtes ici et vous ne connaissez pas le Seigneur comme votre sauveur personnel, ma prière pour vous, oui, c'est que vous puissiez goûter que l'Éternel est bon. Puissiez vous repentir de vos péchés. Et vous pouvez accepter le cadeau que Dieu vous offre quand Christ est mort pour vos péchés à la croix de Calvaire. On va prier. Seigneur, merci d'être ce Dieu de grâce, de compassion, ce Dieu d'amour. Pour nous qui t'avons connu, Seigneur, nous te demandons de nous remplir de la connaissance, justement, de l'amour de Christ. Que nous puissions, nous faire violence, Seigneur, de cultiver à ton égard un amour croissant, parce que nous délectons de ton amour pour nous. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas, Seigneur, or, nous te prions, Dieu miséricordieux et compatissant, révèle-toi, Seigneur, à ces personnes. Ouvre leurs yeux afin qu'ils puissent voir l'amour du Christ à la croix du Calvaire et que ces personnes puissent dire, oui, c'est ça que je veux. C'est par nous avec ta bénédiction. Nous demandons au nom de Jésus. Amen.